France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors pourquoi eux et pas d'autres ce soir? Voilà une question d'auditeur que nous avons reçue quant à nos différents invités. Alors nous ne vous dévoilerons pas vraiment les secrets de cuisine de l'émission, mais par exemple ce soir, voilà, 4 personnes ont gagné leur place autour de la table des informés de France Info, tout simplement parce qu'ils savent qui, de Boule et de Bill, est le garçon et le chien. Voilà des critères pas très rigoureux, mais nous les avons testés. Peut-être on leur posera la question pendant l'émission, on ne sait pas, mais en tout cas ils ont répondu favorablement et surtout ils ont bien répondu. Donc voilà pourquoi ils sont là ce soir. Et les informés de France Info reçoivent ce soir Éric Métou de l'Express, bonsoir.
Bonsoir.
Également Arnaud Vivian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef, entre autres, de la revue Charles. Le communicant Jean-Christophe Gallien, bonsoir.
Bonsoir.
Et dans le cadre de la campagne présidentielle et de la rigueur du temps de parole, nous recevons la directrice de campagne de Jean Lassalle, Céline Alloum, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, nous parlerons largement de politique, de campagne, bagarre un peu, également des relations des jeunes avec le Front National, de relations fraîchoues, on va dire ça, entre les États-Unis et la Russie. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors si dans moins de 2 semaines, on en saura un peu plus sur le nouveau locataire de l'Élysée, puisque nous n'aurons plus le choix qu'entre 2 personnes, l'actuel locataire sort de son silence. En début de semaine, on apprenait que François Hollande cherchait une location en Corrèze, tout simplement. On se demandait s'il s'inquiétait pour savoir s'il aura assez de cartons de déménagement et surtout qui pourrait se porter garant pour son futur logement, parce que c'est jamais assez simple. Eh bien, il n'en est rien. Cette semaine, le chef de l'État a décidé de communiquer. Aujourd'hui, dans le journal Le Monde, il évoque la situation en Syrie, l'absence de dialogue avec Donald Trump et ses alliés, et prévient son successeur qu'il faut continuer à frapper Daesh. Demain, dans Le Point, il critique Jean-Luc Mélenchon et appelle à du renouvellement en politique. Tiens, mais de qui il s'agit? Mais il a également parlé aussi de pop culture Combini et a évoqué son rapport au pouvoir. Alors Combini a diffusé les meilleurs extraits sur Snapchat et le rendez-vous donne une petite vidéo assez surréaliste, on l'écoute.
Vous aimez Snapchat? Vous aimez Combini? Vous savez pas si vous m'aimez? Alors regardez Combini sur Snapchat, j'y serai.
Yeah. Voilà, François Hollande, Snoop Dogg, donc même combat. Voilà, ça c'était donc sur Combini, les meilleurs extraits vidéo donc de l'interview. François Hollande donc voulait se faire silencieux pendant la campagne. Éric Métou, pourquoi cet enchaînement d'interview soudain?
Qu'est-ce qui doit s'emmerder?
C'est ça.
Il n'y a plus rien à faire là, c'est terrible quoi. Faire une interview au point pour dire les banalités qu'il y a dans l'interview, c'est tragique. Bon, ça c'est rigolo.
Ouais, bien sûr.
Enfin, ouais. Il est quand même président de la République. Et peut-être autre chose à faire que d'aller faire le guignol sur un fond jaune. Voilà, je pense que c'est il vit une tragédie là en ce moment. Il a 2 mois. Il a encore 2 mois à subir et puis il se demande comment il va terminer.
Ouais. Alors Jean-Christophe, est-ce que finalement cet enchaînement d'interviews, on va revenir sur le contenu de ces interviews, mais est-ce que c'était aussi se mettre en avant, parce que peut-être que, vous savez, c'est ce qu'on dit depuis le 1er décembre, est-ce qu'il y a un petit regret de décision?
Vous me l'enlevez de la bouche, Jean-Mathieu, je pense qu'il y a, plus qu'un regret, je pense qu'il a profondément le sentiment d'avoir loupé une vraie occasion, pour des raisons qu'on connaît, pour des raisons qu'on ignore aussi en grande partie. Et je pense que chez lui, il y a ça. Et donc, se retenir de venir en parler d'une manière ou d'une autre sur Combini, au Point, ou dans les colonnes du Monde, c'est impossible. Et je crois qu'on va le sentir jusqu'à au premier tour. Et avec enfin, entre les 2 tours, la possibilité de s'exprimer, peut-être de manière dramatique. Je crois que c'est ce qui est attendu. Mais effectivement, le regret est là. Et il est certainement dans sa tête, présent en permanence depuis qu'il a renoncé.
C'est Céline Alloum, quand on voit le contenu de ça, on se dit François Hollande veut s'exprimer, il ne dit pas qu'il va appeler à voter Emmanuel Macron, il dit juste ça a besoin de renouvellement. En parlant d'ailleurs de son ex-ministre d'économie, il dit que c'est une campagne audacieuse qu'il est en train de mener. Ça vous a surpris, vous, ces 3 interviews comme ça que François Hollande se livre?
C'est-à-dire, cher Jean-Mathieu, le plan de François Hollande n'était pas du tout celui-là,
non,
initialement. Tant que directrice de campagne de Jean Lassalle, ouais, candidat à la présidence de la République, je peux ici témoigner que la réforme de la loi électorale, aussi bien sur la question des parrainages que du temps médiatique, qui a vraiment été fait sur mesure pour cette élection, qui ne s'est jamais produite de cette façon-là dans toutes les élections précédentes et qui ne se produira pas de cette façon-là dans les prochaines élections, a été rigoureusement pensée pour préparer la réélection de François Hollande à un moment où il pensait pouvoir y aller. Entre-temps, son fils spirituel, effectivement, lui est passé devant de l'intérieur du système.
Dites, alors Emmanuel Macron, fils spirituel?
C'est une évidence, ah, c'est oui, une évidence.
Non, mais je précise pour les auditeurs.
Et donc aujourd'hui, nous avons effectivement un père en fin de vie et qui part en Corrèze, se retirer comme ça pour entrer dans la cour chiraquienne. Il cherche finalement ses représentations et qui laisse à son fils le terrain de jeu qu'il avait dûment préparé pour lui. Donc il est en désespoir et il s'amuse.
Alors on va en parler dans un instant, mais Arnaud Vivian, pour vous, quand on dit fils spirituel, Emmanuel Macron, François Hollande, pour vous, c'est logique, enfin, on est là-dedans.
On est toujours un peu dans la même logique, c'est-à-dire un président ne devrait pas dire ça. Tout simplement, il n'y a pas de raison non plus qu'un président s'immisce dans la course électorale de cette manière-là, 10 jours avant le premier tour, et désigne son candidat favori, en disant d'ailleurs qu'il ne se prononce pas en faveur d'Emmanuel Macron parce que ça serait contre-productif. Ce qui est déjà une phrase contre-productive en soi, je veux dire, une espèce de logique absurde, tout en glissant des pots de banane à Jean-Luc Mélenchon, sans s'inquiéter de Marine Le Pen. Après tout, s'il y avait un rôle peut-être au président de la République, c'est de dénoncer l'extrémisme à droite. Mais non, ce qu'il dénonce, c'est la carrière socialiste de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Tout ça est quand même donne une impression très bizarre d'un président hors sol et qui en même temps veut rentrer sur le terrain de jeu absolument. Encore une fois, ce n'est pas sa volonté.
Pour vous, il y a du regret en fait. C'est ça ce que je voulais, la question que je posais tout à l'heure,
c'est un regret. Oui, ça qu'il regrette de ne pas s'être présenté, d'autant que finalement on sent qu'il y a encore du hollandisme chez les Français, qu'il y avait une petite chance, oui, effectivement, que ça marche, mais voilà, il ne s'est pas présenté.
Alors on va continuer à parler justement de ces interviews de François Hollande données successivement donc au Monde, au Point, à Combini, et notamment son attitude par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon qui fait actuellement une percée dans les sondages d'opinion et les études, notamment puisqu'il à la place du politique préféré des Français. Maintenant, dans un instant, on en parle. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Le quart de finale aller, Borussia Dortmund face à l'AS Monaco. Nous en sommes à 2-1 pour Monaco en pleine deuxième mi-temps. Une rencontre 24 heures après l'attaque de l'autobus des joueurs allemands. Un suspect est toujours interrogé par la police en lien avec la mouvance islamiste. Ségolène Royal échoue à prendre la tête du programme des Nations Unies pour le développement. France Info vous le révèle ce soir. La ministre de l'Environnement avait déposé sa candidature pour diriger cette agence de l'ONU basée à New York. Mais c'est l'Allemand Hakim Steiner, ancien directeur général du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a été choisi. Malgré les problèmes, la Russie prête à un dialogue ouvert avec les États-Unis. C'est en tout cas le ministre russe des Affaires étrangères qui le déclare ce soir. Le secrétaire d'État américain avoue, lui, un faible niveau de confiance entre les deux pays. Vladimir Poutine a reçu cet après-midi au Kremlin le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson, alors que les relations entre les deux États sont glaciales. Petit côté Tour de France pour la journée d'Emmanuel Macron dans les Pyrénées pour le candidat En Marche. Il faut garder le maillot jaune quand on l'a. Les sondages, dit-il, ne sont pas des étapes du Tour de France. Il n'y en a qu'une, c'est l'arrivée finale et c'est dans 11 jours. Et puis, il y a ensuite le mois de mai. 69 migrants déjà quittés aujourd'hui Grande-Synthe. Ils sont dirigés vers deux centres d'accueil et d'orientation dans le Nord et dans l'Aisne. C'est un hébergement temporaire après l'incendie qui a ravagé lundi soir ce camp situé dans les Hauts-de-France.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons donc de ces interviews de François Hollande avec cette fameuse phrase qu'il a dite au magazine Le Point à propos de qui justement il déclare, François Hollande, il y a un péril face aux simplifications, face aux falsifications qui fait que l'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte. Jean-Christophe Gallien, alors donc il s'inquiète de Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'on l'a compris. Est-ce que derrière ça, alors lui il dit il y a un péril, mais on sait qu'il y a une guerre entre les deux hommes depuis 20 ans à peu près.
Et là exactement, on est finalement dans ce qui n'est pas arrivé, c'est-à-dire finalement un duel qui aurait dû se délivrer sur la place publique et la place électorale et qui finalement est vécu par François Hollande, par l'intermédiaire potentiellement d'Emmanuel Macron, on l'a dit, mais aussi peut-être un peu de Benoît Hamon quelque part. En tout cas, il n'y est pas. Donc je pense qu'il ne peut pas s'empêcher effectivement, dans ces 10 derniers jours, d'intervenir. Il va le faire, certainement. Avec quel effet? Là, on va voir. Parce qu'attaquer Jean-Luc Mélenchon de cette manière-là, c'est pas forcément lui faire beaucoup de mal. Au contraire, je pense que c'est peut-être l'occasion pour Jean-Luc Mélenchon de rebondir là-dessus. On sait qu'il l'a bien fait depuis le début. C'est embarrassant pour Emmanuel Macron parce que finalement, on l'a dit, ça n'est pas dit, c'est murmuré, mais c'est tellement murmuré que finalement, on finit par l'entendre. Mmh. Et donc, à partir de là, aujourd'hui, quelle est la position réelle de François Hollande? On l'attend, on interpelle même ses équipes, on essaie d'en savoir un peu plus, et puis on n'en sait pas beaucoup plus, tout en ayant le même murmure qui arrive. On ne dira rien avant l'après-premier tour, mais on meurt d'envie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'après, il y a une envie de François Hollande pour la suite? C'est ça qui serait intéressant.
Pour aller dans votre sens, Jean-Christophe Gallien, voilà justement ce qu'ont répondu aussi les soutiens de Jean-Luc Mélenchon à François Hollande. France Info a joint ce matin, justement, Alexis Corbière, qui est porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, et voilà ce qu'il a répondu à la phrase de François Hollande, qui s'inquiète de la montée de Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute.
Il n'a plus beaucoup de rôle positif depuis un moment. Il est dans son rôle, comme toujours, d'essayer de faire peser sur le débat politique des choses afin que notre pays n'avance pas. Moi, je trouve ça finalement à la fois désolant, mais comme une forme d'hommage du vice à la vertu. Ils ont peur. Voilà. C'est sans doute la confirmation que nous sommes dans la bonne voie pour créer les conditions que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour le 23 avril.
Alexis Corbière, donc porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Éric Métou, quand finalement François Hollande dit aussi, il craint un second tour. Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, aujourd'hui, c'est de l'ordre du possible, hein? Ou c'est du fantasme?
Aujourd'hui, tout est possible. Enfin, vu les écarts, vu ce qui s'est déjà passé en Grande-Bretagne, ce qui s'est passé aux États-Unis, on peut tout prévoir. Sauf peut-être la présence au deuxième tour de Jean Lassalle. Mais à part ça, il y a, en tout cas, sur les grands candidats, tout est possible. Ouais. Et puis, je suis assez d'accord avec Hollande là-dessus. On peut le craindre. Enfin, Mélenchon-Le Pen, ça fait pas envie. Hein.
C'est une allume que, justement, quand vous avez entendu ça, cette poussée, vous, de Jean-Luc Mélenchon, comment vous l'analysez, vous?
Non, mais d'abord, un point sur François Hollande. Je crois que François Hollande, vis-à-vis de Mélenchon, a un problème. C'est que François Hollande est vraiment une incarnation de la technostructure française dont les Français ne veulent plus entendre parler. Et Mélenchon, c'est un tribun. Il faut lui reconnaître ça. Mélenchon est un tribun comme Jean Lassalle est un tribun. Mmh. Ça fait partie de ces rares hommes qui peuvent tenir discours structurés intellectuellement denses pendant 3 heures sans aucune note. Et ça, François Hollande, il a jamais su faire ça. Et ce qui explique en partie d'ailleurs son problème de leadership politique. La faiblesse de son leadership vient de cette incapacité.
Est-ce qu'on peut expliquer qu'à partir de ça, parce que c'est vrai, quand vous parlez de Jean Lassalle comme Jean-Luc Mélenchon, on va faire la comparaison, c'est aussi des gens qui sont élus depuis très longtemps en politique. Est-ce qu'à un moment, quand ces personnes-là parlent de renouveau, est-ce qu'ils ne sont pas les mieux placés quand même tout de même pour en parler de ce renouveau?
Parce qu'ils sont là. Moi, je crois que la vraie question, elle est idéologique. Oui. Mélenchon, il propose un modèle de révolution. J'ai lu l'article avec intérêt sur le blog et je le partage en tout point. Il y a deux conceptions de la révolution sanguinaire et puis la révolution à la française, c'est-à-dire où finalement, même si Montagnards et Girondins ne sont pas capables de s'entendre, ça aurait pu se passer. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait d'ailleurs appeler à l'entente des Montagnards et des Girondins pour mettre à bas le système jacobin qui nous épuise. Donc il y a un problème idéologique. Jean Lassalle, c'est un élu, mais de terrain. Il n'a jamais été ministre. Monsieur Mélenchon a été ministre. Monsieur Lassalle a été un homme libre et indépendant toute sa vie. Monsieur Mélenchon a été fabriqué dans l'antre du moule de l'apparatchisme socialiste. Donc les différences, elles sont frappantes. Et je crois que les Français aujourd'hui ont la possibilité, malgré la tentative d'empêchement du débat public dans ce pays, d'avoir 2 semaines pour se rendre compte qu'avec Jean Lassalle, il y a une nouvelle offre politique qui se dessine sur un choix idéologique fondamental.
Alors justement, Arnaud Vivian, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui vous diriez, révolutionnaire, vous avez, quand on voit la une du Figaro aujourd'hui, c'est on dit Hugo Chavez, bolivarienne, chez François Fillon, on dit communiste même. Voilà, pour vous, c'est des termes appropriés pour Jean-Luc Mélenchon?
Oui, vous savez, il n'y a pas de mot plus galvaudé que celui de révolution dans cette campagne électorale. Je vous rappelle que Emmanuel Macron a appelé son livre Révolution. Voilà. Donc vous voyez, quand même, les bras vous en tombent.
C'était pour pas dire anti-système, c'est pour ça. Voilà.
Non, pour en revenir à cette interview de François Hollande, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'il va chercher des noises à Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas un mot sur Benoît Hamon, qui est quand même candidat du Parti Socialiste. Il faut quand même que cette charte que les candidats à la primaire socialiste ont signée, elle s'applique aussi d'une certaine manière au président de la République en tant que socialiste. J'estime. Mmh. Il y a une question, la question de la loyauté dans cette campagne électorale est franchement quelque chose qui très très étrange. Il y a la question de la parole donnée.
C'est de la politique.
Non, mais c'est de la politique, mais vous faites rire
quand vous parlez de loyauté en politique.
On n'a jamais vu
des gens
quand même renier leurs paroles en aussi peu de temps.
C'est de la politique.
Il s'agit de François Fillon ou de Manuel Valls. Ce sont des gens qui ont dit des choses.
La 5e République est pleine de reniements.
Trois semaines plus tard, disent le contraire. Ah non, mais quand même, là, je crois qu'on a atteint un niveau de reniement assez spectaculaire.
Je crois qu'on oppose à François Hollande, finalement, ce qu'on devrait opposer à Nicolas Sarkozy et à Alain Juppé, par exemple. Je veux dire, on les entend pas beaucoup. Où sont-ils dans la campagne de François Fillon? Enfin,
c'est-à-dire que la seule différence, c'est que François Hollande, c'est le président de tous les Français.
On est bien d'accord. Mais, non, mais Hollande, il n'a pas signé la charte, alors qu'eux-mêmes, par exemple, avaient signé une charte, je ne sais pas laquelle c'était, pour la primaire de droite. Mmh. C'est clair que là, il y a, sinon de la loyauté en déficience, il y a vraiment une incapacité, effectivement, à certains d'avoir accepté des résultats. Et là, on a effectivement quelqu'un qui redoute la présence d'un de ses ennemis politiques, de ces dernières années, du parcours politique de François Hollande, c'est Mélenchon. Le risque pour lui, c'est de le voir arriver. C'est pire que de voir Marine Le Pen, dont il sait pratiquement qu'elle peut être au deuxième tour. Là, pour le coup, la très mauvaise surprise
est
cumulée personnellement au fait qu'il n'a pas pu y aller et qu'en plus, son candidat, entre guillemets, pourrait être battu au final du final sur ce premier tour. Je crois que c'est le pire. Et donc, ça dit bien ce que ça veut dire.
Justement, Éric Métou, qui n'est pas une allusion à Benoît Hamon. Derrière, on règle aussi ses comptes parce que Benoît Hamon était frondeur.
C'est-à-dire que Benoît Hamon, il est à 8%. Donc, on parie pas sur le cheval qui va perdre et dont tout le monde sait qu'il va perdre. Enfin, il y a aussi un peu de ça. Si Hamon était à 18% aujourd'hui, je pense que le soutien de
oui, mais ça s'est fait en 15 jours, hein, le retournement. C'est-à-dire que les ministres socialistes qui se sont déclarés en faveur de Macron au lieu de se déclarer en faveur de Benoît Hamon, cette dynamique-là en faveur de Mélenchon n'aurait peut-être pas existé.
La responsabilité de la baisse de Benoît Hamon, elle est chez Benoît Hamon et chez son équipe. Il ne faut pas aller la chercher ailleurs.
Pour moi, François Hollande, il a deux problèmes majeurs qui vont le sortir définitivement de l'histoire. Il a un problème de bilan et il a un problème de legs politique. François Hollande, en 2012, c'est l'homme qui refuse l'alliance avec François Bayrou pour préserver le Parti Socialiste dans tout ce qu'il a de plus rétrograde. Et il fait le choix de la continuité avec une tentative en fait d'adjournamento de l'intérieur, social-libéral, mal amenée. Et aujourd'hui, en fait, comme il n'a pas accompagné cette transformation de manière assumée, il se retrouve avec un PS qui est effondré et il l'a lui-même tué. Et donc, on ne rentre pas en présidence de la République dans la 5e sans au moins laisser un bilan ou alors une œuvre politique. Il n'y en a plus d'œuvre politique. Donc, il ne cite pas Hamon parce qu'il est dans la honte vis-à-vis de ça.
On va parler de la suite de la campagne dans un instant. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Ségolène Royal échoue à prendre la tête du programme des Nations Unies pour le développement. France Info le révèle ce soir. La ministre de l'Environnement avait déposé sa candidature pour diriger cette agence de l'ONU. Elle est basée à New York. Mais c'est l'Allemand Hakim Steiner, actuel directeur du programme des Nations Unies pour l'Environnement, qui a été choisi. Le ministre allemand des Affaires étrangères espère que Marine Le Pen n'entrera pas à l'Elysée. Wolfgang Schäuble veut un président français fort et pro-européen. Nous avons besoin, dit-il, de la France, au moins autant que la France a besoin de nous. Le quart de finale aller, Borussia Dortmund face à l'AS Monaco. Nous en sommes à 2-1 pour Monaco après 1h20 de jeu. Une rencontre 24 heures après l'attaque de l'autobus des joueurs allemands. Un suspect reste interrogé par la police en lien avec la mouvance islamiste. Malgré le paquet neutre, les ventes de cigarettes remontent en France. Plus de 10 milliards 800 millions de cigarettes ont été livrées aux buralistes depuis le début de cette année. C'est une hausse de 1,5%. Sur la même période l'an dernier. La mesure décriée par les buralistes et cigarettiers ne démontre pas encore son efficacité. Elle est censée frapper les esprits chez les plus jeunes fumeurs. Et puis à Paris, Smooth & Go prend les commandes des Vélib. Exit, le groupement autour de JC Deco à la fin de cette année. Paris et une centaine de communes de l'agglomération attribuent aujourd'hui le marché à ce consortium franco-espagnol jusqu'en 2032.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Éric Métou de L'Express, Arnaud Vivian, rédacteur en chef de la revue Charles, le communicant Jean-Christophe Gallien et la directrice de campagne de Jean Lassalle, Céline Alloum. Alors faisons un petit point présidentiel tout de suite, il est 20h21 et depuis le début de l'émission tout est plutôt tranquille puisque c'est toujours autant le foutoir, on peut dire ça. Depuis le début de la semaine, les enquêtes parlent d'un match à 4 et tout le monde tape sur tout le monde en fait, sauf Benoît Hamon, on l'a dit, qui aimerait bien faire partie de la bagarre, mais c'est un fight club sur invitation en fait. Alors Fillon tape Macron, qui tape sur Mélenchon, qui critique Le Pen, qui tape sur Macron, qui tape sur Fillon, bref, c'est un mouvement perpétuel. C'est une synthèse un peu rapide de la situation et les autres dans tout ça, bah, justement c'est ce qu'on va voir. En attendant, il y a quand même un peu de violence dans les propos de chacun et même chez Emmanuel Macron.
Nous avons le révolutionnaire communiste. Il était sénateur socialiste. J'étais encore au collège. Nous avons Vercingétorix. Mais depuis 35 ans, il est dans la vie politique française. Et enfin, nous avons Madame Le Pen. Elle a encore montré ces derniers jours quand certains voudraient l'oublier en ne retenant que son prénom, qu'elle avait un nom, une marque que nous connaissons trop bien.
Emmanuel Macron, donc en meeting hier, alors, Cyril Hanoum, comment vous, justement, directrice de campagne de Jean Lassalle, quand on vous dit aujourd'hui c'est un débat à quatre, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen, comment vous vous situez ?
C'est une construction médiatique qui elle-même est la résultante du Machiavel François Hollande qui avait décidé de manipuler le système. Donc il faut dire aux Français oui. qui vivent une manipulation. Aujourd'hui, il y a environ 40% en tout cas dans les sondages de Français qui indiquent ne pas avoir fait leur choix. Il y a une lassitude fondamentale et moi je pense que à l'instar de ce qui s'est passé dans d'autres démocraties occidentales, on peut voir une émergence très très rapide dans la dernière ligne droite. Alors il faut lutter contre le système. Il y a vraiment rien pour aider, ni les grilles médiatiques, ni...
Quand on vous ressort, regardez ce soir, on vous ressort.
Dans la presse écrite, aucun article sur Jean Lassalle dans la moitié des presses qui comptent. Regardez le JDD, rien du tout. Regardez Le Monde qui est devenu ce journal de caniveau, rien du tout.
Caniveau, mais attendez, peut-être qu'ils vont vous interviewer.
Rien du tout. Alors qu'on a fait des entretiens d'une heure et demie, deux heures, aucune restitution, rien.
Ouais.
Voilà. Alors... Donc je dis pas qu'il y a grand et petit, oui. Je dis qu'il y a riche et pauvre, je dis qu'il y a grand et sec, mais il y a certainement pas de candidats et de sous-candidats en démocratie.
Éric Metou.
Madame, vous portez une responsabilité, vous, là, en tenant ce discours-là, mais les hommes politiques en général, sur ce qui se passe aujourd'hui autour des journalistes, la violence dans les meetings, les courriers, les balles que les gens reçoivent, vous rendez pas compte ? C'est irresponsable de tenir ce genre de discours.
Je me rends parfaitement compte.
Si la vie politique française est aussi médiocre, si la vie politique française est aussi médiocre, c'est pas la faute des journalistes. Ou en tout cas, c'est pas surtout la faute des journalistes, c'est surtout la faute des politiques. Et Jean Lassalle est un politique.
Mais
voilà. Moi, ça me met en colère, ce genre de discours.
Expliquez-moi
ça
dans
me met
ces
en colère,
cas-là.
C'est irresponsable.
Expliquez-moi dans ces cas-là pourquoi on a fait des séries de...
De traiter Le Monde de journal de caniveau.
Dix fois deux heures d'entretien.
Le Monde de journal de caniveau avec le boulot qu'ils font en ce moment sur la politique.
Expliquez-moi dans ces cas-là pourquoi on a fait des séries de dix fois... Il faut dire la vérité aux Français. Expliquez-moi dans ces cas-là...
Pourquoi c'est pas vous qui l'a dit la vérité aux Français.
Pourquoi dans ces cas-là, expliquez-moi pourquoi on fait des entretiens de deux heures qui ne donnent jamais lieu à aucun papier depuis des mois et des mois.
Parce que les deux heures d'entretien que vous faites sont totalement inintéressants. Le passage de Jean Lassalle au grand débat, on a vu ce que ça valait.
Je vous invite à lire le livre de Jean Lassalle, qui est, je pense, un traité de politique très intéressant, mais qui parle de choses qui n'intéressent pas les Parisiens.
Non, mais ça n'a rien à voir, je pense, des Parisiens. Attendez, c'est des Français.
Journalistes parisiens dans leur tour d'ivoire.
Alors, je tiens juste à préciser qu'il n'y a pas que des journalistes parisiens, vous savez, justement, il y a des journalistes partout en France. Arnaud Vivian, justement, quand on voit ça, on a vu qu'avec les médias, depuis le début de la campagne, il y avait une petite tension. On l'a vu à droite, on l'a vu à gauche, on l'a vu avec le meeting de François Fillon. François Fillon qui a dit aux journalistes de prendre leurs responsabilités. Voilà, c'est quand même une ambiance. Ça se termine dans une ambiance assez particulière quand même, cette campagne-là.
Oui, c'est une campagne électorale. Elle est à ma connaissance, elle est aussi tendue que toutes les autres. Ah oui, bien sûr. Par ailleurs, vous dites Machiavel, mais enfin Machiavel à moitié, Machiavel ennemi.
Machiavel technocrate.
Évidemment, parce qu'il... En fait, ce qui a échoué dans cette campagne, ce qui était par rapport aux prévisions, c'était le bipartisme. Il y avait une organisation faite pour une campagne...
Cinquième République, en fait.
Oui, Cinquième République. Et ça a échoué. On se retrouve avec quatre grands candidats. Et évidemment, c'est au détriment des petits candidats et de la parole qu'il porte, ça c'est clair. Mais en même temps, on ne voit pas bien et comment, d'un point de vue journalistique, on pourrait rendre compte également de toutes ces dimensions qui sont vraiment intéressantes. Et j'ai trouvé, moi, que le grand débat à 11 a été un moment exceptionnel. Et j'ai trouvé que ceux qui ont pris la responsabilité parmi les politiques de ne pas accepter un deuxième débat à 11 ont effectivement, là aussi, une responsabilité. Et ça, c'est pas les journalistes, puisque les journalistes voulaient
sujet, ce débat.
Mais moi, je voudrais juste...
Ce sont les politiques. Alors,
je voudrais juste que vous m'expliquiez la définition de grand et petit, parce que, en réalité, quand Jean Lassalle déclare sa candidature en mars 2016, il a déjà écrit un livre qui sort en octobre, pas un mot. Et pendant ce temps-là, M. Hamon, qui n'a pas plus de titre de noblesse en politique, a priori que Jean Lassalle, si on compare les deux parcours,
je suis surmédiatisé. D'accord avec vous.
Surmédiatisé. Donc, c'est une construction.
Alors, les 500 signatures, il n'y a plus de grand et petit candidat.
Je tiens juste à dire que nous sommes, nous, médias audiovisuels, voilà, tenus depuis lundi, donc il y a une égalité totale. Donc, c'est pour ça que vous informez de France Info. Nous recevons chaque soir. Et c'est vrai que ce n'est pas le même temps de parole, parce que je vous dis juste une chose, nous, médias audiovisuels, nous, ce qui nous déplaît, c'est par exemple que sur Internet, il n'y ait pas, il n'y ait aucune règle concernant le temps de parole. Nous, nous y sommes tenus.
Le rebond là-dessus est assez facile. Il y a deux aspects dans ce que vous dites. Il y a un premier aspect qui est effectivement un climat qui s'est tendu, non pas depuis la campagne présidentielle, mais bien avant. C'est-à-dire que l'argument, on en parle souvent ici sur ce plateau ou ailleurs, mais ailleurs aussi, c'est l'idée que ça devient un instrument favorable que de taper sur les médias. On l'a fait sur la justice un moment donné quand on fait de la politique. Bon, mais c'est un argument de campagne, mais aussi de stratégie politique en général.
Oui, mais irresponsable.
En tout cas, c'est clair qu'il y a cet effet-là. Après, il y a un deuxième point qui, pour le coup, qui est assez déficitaire chez ce qu'on appelle les petits candidats qui ne devraient pas l'être, c'est qu'aujourd'hui, gagner la bataille des médias verticaux, excusez-moi, c'est pas l'alpha et oméga de la réussite électorale.
Ouais. On va y aller, voilà. Parce que voilà, mais on va y revenir dans un instant, voilà, ne vous inquiétez pas.
Parce que ça fait lien avec les jeunes.
On ira également à Dortmund prendre des nouvelles du match Dortmund AS Monaco dans un instant. Un programme très chargé nous suit pour la suite, justement, des informés de France Info.
Nouveau message, Bouygues Télécom.
Je t'écoute.
En ce moment, Bbox Miami est à 19,99€ par mois pendant un an.
19,99€
avec 170 chaînes TV, ouais. Plus le replay, ouais. Plus 7000 films en VOD.
Attends, tu vas un peu vite là, j'ai pas le temps de...
Normal, ça dure au débit.
En ce moment chez Bouygues Télécom, Bbox Miami est à 19,99€ par mois pendant un an, puis 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité.
France Info Météo avec Gautier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Une perturbation arrive par la Manche ce soir. Demain matin, on va la retrouver sur les régions du Nord avec un ciel encombré, quelques pluies vers le Nord-Est, mais déjà le retour d'éclaircies au nord de la Seine. L'après-midi, ce sera mieux. Les nuages se morcelleront au profit des éclaircies. Dans le Sud, à nouveau, une très belle journée sous le soleil. À peine quelques grisailles sur les plages de la Côte d'Azur ou de la Corse. Au sud de la Garonne aussi, bien vite effacées. Quelques nuages en montagne l'après-midi. Plus d'odus vers le Mercantour avec une averse possible. Pour les températures, 2 à 8 degrés le matin. 9 à 13 dans le sud-est. Et puis l'après-midi, petite baisse au nord, 13 à 18 degrés, 15 à Lille, 17 à Paris, 18 à Strasbourg, Nantes et Châteauroux. A l'inverse, sous le soleil du sud, petite hausse avec 18 à 27 degrés, 18 à Biarritz, 21 à Lyon, 24 degrés pour Toulouse et Toulon et les 27 pour Perpignan et Nîmes.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir, la sécurité a été renforcée en Allemagne pour les matchs de Ligue des Champions de la soirée. Bayern Munich contre le Real Madrid et Dortmund Monaco. Après l'attaque à l'explosif qui a visé hier soir le bus des joueurs du Borussia, un homme a été interpellé. Un homme appartenant à la mouvance islamiste, un autre est recherché. Alors ce Borussia Dortmund contre l'AS Monaco, Xavier Monferrand, on va encore pouvoir dire merci à Kylian Mbappé, mais c'est pas si facile que ça pour les monégasques.
Non, pas si évident, ça pousse côté Dortmund, même si au tableau d'affichage, eh bien, c'est Monaco qui mène 3 buts à 2 à un peu moins de 4 minutes de la fin du temps réglementaire dans ce quart de finale. Allez, effectivement, merci Mbappé pour l'instant, auteur d'un doublé pour le club du Rocher qui donc a un avantage pour l'instant certain en vue du match retour. Encore faut-il le maintenir cet avantage. Attention peut-être là à nouveau avec Kylian Mbappé dans la surface. C'est récupéré par la défense allemande. Mais c'est vrai que les dernières minutes vont être folles parce que les joueurs de Borussia S'ils ont la tête un peu lourde, même si le ballon pèse un peu lourd vu le contexte de la rencontre, eh bien ils n'ont pas abdiqué et ils pourraient bien égaliser à 3-3, en tout cas pour les Monégasques. Pour l'instant ça tient 3-2 à 3 minutes du terme de la rencontre.
Xavier Monferrand, merci à vous en direct de Dortmund. François Hollande se confie au point, cette campagne sent mauvais et craignant un second tour, Le Pen-Mélenchon, le chef de l'État, souligne qu'il y a un péril face aux simplifications, face aux falsifications qui fait que l'on regarde le spectacle du tribun plutôt que le contenu de son texte. François Hollande qui n'en dit pas plus sur son vote, si ce n'est, je considère que la politique a besoin de renouvellement. Une sortie ratée pour Ségolène Royal, elle ambitionnait de prendre la tête du programme des Nations Unies pour le développement. La ministre avait déposé sa candidature et fait campagne pour l'agence onusienne. Et selon Jean-Michel Apathy, eh bien, c'est un Allemand qui a été choisi, l'actuel patron du programme des Nations Unies pour l'environnement. Finalement, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a été reçu au Kremlin par Vladimir Poutine pour évoquer la situation en Syrie. Avant cette rencontre, le président russe n'a pas manqué de souligner que les relations entre Moscou et Washington se sont détériorées depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. La Russie et les États-Unis qui se disent prêts à aller de l'avant et tenter de surmonter leur faible niveau de confiance pour mener notamment une lutte implacable contre le terrorisme. Les mondiaux de cyclisme sur piste à Hong Kong, première médaille pour la France, du bronze dans l'épreuve de vitesse par équipe, le titre pour les Néo-Zélandais. 20h33 sur France Info, les informés reviennent tout de suite avec Jean-Mathieu Pernin et ses invités.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT, et juste le temps de reprendre leur souffle que les voici, les voilà. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Éric Métou de l'Express, Arnaud Vivian, rédacteur en chef de la revue Charles, également Jean-Christophe Gallien, communicant de son État, et toujours dans le cadre de la campagne électorale, nous recevons ce soir la directrice de campagne de Jean Lassalle, Cécile Alléaume. On parlait justement de cette campagne, des médias, ça c'est un petit peu emballé, c'est normal, c'est notre métier, ça nous touche. Mais juste une petite question à propos de cette campagne. Arnaud Vivian, ce soir, y a un meeting commun qui fait un petit peu, qui fait parler de lui. C'est forcément celui d'Emmanuel Macron avec François Bayrou. Pour vous, finalement, avec le recul, ça a été important, ce ralliement, dans la campagne, dans finalement ce livre de la campagne?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que finalement, au début, Macron ne l'a pas tellement montré, François Bayrou, et soudainement, là, il l'exhibe vraiment. Et, enfin, les deux se montrent ensemble beaucoup. Hein, même les potins, ils vont au restaurant ensemble. Alors, on peut lire ça dans la presse. C'est très intéressant parce que ce qu'on comprend, hein, me semble-t-il, c'est que Emmanuel Macron a compris qu'il ne pouvait gagner, finalement, qu'en ralliant à lui ceux qui ont voté Juppé à la primaire de droite, c'est-à-dire le centre-droit, on va dire. Il ne va pas gagner sur sa gauche. Hein. Lui qui se disait ni de droite, ni de gauche, ne va pas du tout chercher ses électeurs à gauche. Et d'ailleurs, il fait des déclarations de plus en plus à droite. Hein. C'est la déclaration sur les ordonnances, évidemment, qui a beaucoup choqué la gauche. Ce n'est pas une manière très démocratique de gouverner, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, d'accélérer le débat en le supprimant, tout simplement, en disant « je vais changer les lois par ordonnance, en tout cas sur les lois de travail, dès mon élection ». Donc on voit bien qu'il veut gagner à droite, hein, finalement. C'est là où il peut encore trouver un réservoir d'électeurs.
Ouais. Jean-Christophe Gallien, pour vous, ce soir, voilà, c'est un coup de com', parce que c'est vrai qu'on ne les avait pas vus encore. Enfin, on les avait vus une fois à Reims, ensemble, depuis, on ne savait pas trop ce qui se passait dans le couple. Là, cette fois-ci, là, ils s'affichent ce soir.
Je crois que ça commence à devenir décisif. C'est-à-dire qu'on est dans le money time du premier tour. Il lui a permis quand même de passer de 20 à 24 ou de 19 à 24 à 23 à un moment donné quand il y a eu le ralliement. Donc et ça s'est stabilisé quand même. Donc je pense que c'est un point important. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que pour rebondir sur la droitisation de Macron, c'est vrai qu'on comprend bien qui se passe ici, ce qui est passé en Espagne un petit peu. C'est-à-dire qu'on a, Mélenchon qui se Podemos, en fait, en réalité, et qui finalement le revendique, comme les autres l'ont revendiqué. Et là, on a chez Macron quelque chose qui pourrait ressembler à Ciudadanos, en fait. Très concrètement. Et d'ailleurs, Ciudadanos a appelé à voter et à soutenir Emmanuel Macron, qui est soi-disant très inspirant. Et de la même manière, il y a eu effet de miroir. Donc, on est face à ça. C'est-à-dire que moi, je crois que loin d'être inintéressant, c'est ce premier tour à quatre,
est très intéressant pour le coup. C'est le seul point qui soit très intéressant de cette campagne qui a été finalement très décevante. Très décevante, pas seulement pour François Hollande ou pour Nicolas Sarkozy, pour Alain Juppé, mais pour nous tous. C'est-à-dire que finalement, le débat, on en parlait en off, a été très peu présent. Les vrais sujets ont été peu évoqués. Par contre, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui va peut-être avoir comme conséquence une législative. Alors, très intéressante.
Jean-Christophe Gaillet, on va y revenir dans un instant car nous sommes justement, on va faire un petit tour du côté de Dortmund, rejoindre Xavier Monferrand. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Alors, vous avez suivi pour France Info le match reporté d'hier soir, hein, suite à l'attaque explosive du bus de l'équipe allemande hier soir, bien sûr. Alors, le match, on l'a compris, s'est bien passé hein, pour l'AS Monaco. Comment était justement cette ambiance 24 heures après ces explosions à Dortmund, Xavier Monferrand?
Alors, on est dans les derniers, tout derniers instants de la rencontre. C'est pas encore fait pour Monaco, même si effectivement les Monégasques mènent 3-2. L'arbitre va siffler la fin de cette rencontre dans une ambiance assez extraordinaire. C'est fini à l'instant, donc victoire de 3-2 des Monégasques. Ambiance extraordinaire et particulière parce qu'évidemment, dans ce contexte, le ballon semblait peser lourd un petit peu pour les joueurs de Dortmund. Évidemment, les Monégasques étaient restés un peu plus dans leur bulle. Mais vraiment, ce soir, on a eu une ambiance incroyable avec ces 66 000 spectateurs dans ce Signal Iduna Park de Dortmund, avec un mur jaune, cette grande tribune, cette grande pente que toute l'Europe du football vénère. C'est vraiment un match exceptionnel que l'on a vécu ici, et on sent bien, là on le voit, le respect entre les joueurs, cette solidarité entre adversaires et entre supporters également pendant tout le match et avant la rencontre. Ça a vraiment été un rendez-vous très particulier, vraiment exceptionnel.
Vous en parliez juste, Xavier, juste une chose, vous en parliez justement de cette solidarité entre supporters. On l'a vu sur les réseaux sociaux, ça a été inondé, les réseaux sociaux, de photos de supporters monégasques logés chez des supporters de Dortmund. On a vu en effet qu'il s'était passé autre chose que plus que du football presque.
Ah oui, clairement, c'est plus que du ballon ce soir et ce qui s'est passé autour de cette rencontre. Un élan de solidarité, vous l'avez dit, qui est inédit en Ligue des Champions, de voir effectivement tous ces supporters monégasques bloqués et du coup reçus par les supporters de Dortmund pour la nuit ou pour un café ce matin. Il y a vraiment eu de vrais échanges et une vraie solidarité, une vraie fraternité. C'est un mot qui pèse aujourd'hui dans notre société.
Merci beaucoup Xavier Monferrand. On vous retrouve bien sûr dans le Classico, le débat sport de France Info à partir de 21h pour un plus large développement sportif et donc aussi d'actualité concernant Borussia Dortmund. Voilà, je cherchais ce terme, Borussia Dortmund contre l'AS Monaco. On revient nous juste à notre débat. Céline Allôme, moi ce qui m'intéresse aussi avec vous, c'est comme vous êtes directrice de campagne de Jean Lassalle, ce soir ce meeting ici à Pau, et Pau c'est les Pyrénées-Atlantiques, la circonscription de Jean Lassalle. Comment vous le voyez, vous, ce meeting entre Emmanuel Macron et François Bayrou?
François Hollande comme François Bayrou, même constat, longue carrière politique est sortie complètement ratée. Vous savez que le Premier ministre Cazeneuve est venu faire un chèque de quelques dizaines de millions d'euros à Monsieur Bayrou pour la bonne ville de Pau, et j'en suis fort heureuse pour les Palois, mais on voit bien que cette vieille façon de faire de la politique avec des accords d'État pour organiser l'espace politique, c'est exactement ce dont une grande partie des Français ne veulent plus entendre parler. Donc aujourd'hui, Jean Lassalle, il est en ce moment même à Marseille, dans les quartiers populaires, comme il fait tous les jours des rencontres dans des salles municipales, publiques, entre 300 et 400 personnes.
Pour vous, Emmanuel Macron, c'est le candidat centriste de la présidentielle?
Non, pour nous, c'est le candidat de la bulle financière. C'est vraiment une construction médiatique, c'est une construction également du grand capitalisme français, c'est une construction de convergence d'intérêts, et c'est absolument insupportable dans le diagnostic de la France que nous portons, que nous avons voulu débattre sur l'espace public et qui a été objectivement interdit, c'est-à-dire plus de la moitié des Français qui aujourd'hui sont en réelle difficulté et sans perspective.
Ça n'a pas été interdit, je vous le rassure. On peut s'exprimer librement en France et n'importe où.
Le débat n'a pas été organisé sur le diagnostic du pays, c'est pas vrai. Il n'y a eu aucun débat sur le bilan, aucun débat organisé sur l'état du pays, c'est-à-dire l'état du chômage, l'état des Français dans les villages, dans les communes, l'état de désertification.
Mais qui devait le faire pour vous, ça?
Pour moi, ça fait partie des grands débats démocratiques qu'on attend, c'est-à-dire pas un débat à 5 ici ou un débat à 11 uniquement sur le comment. C'est des débats qu'il fallait organiser en amont, dès octobre, dès octobre, pour alimenter la démocratie.
Mais on ne savait pas qui était candidat.
Oui, mais comment faire? Alors, c'est toute la machinerie que je vous dénonçais dès le départ. Comment faire pour se projeter sur un programme, donc un projet, si vous n'avez pas déjà débattu de l'état du pays? C'est strictement impossible. Donc, tout est pipé depuis le début dans cette campagne présidentielle.
Très bien. Allez, on va parler dans un instant du Front National. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Vous l'avez vécu en direct sur France Info, le quart de finale aller Borussia Dortmund face à l'AS Monaco et cette victoire 3-2 pour les Monégasques. Une rencontre 24 heures après l'attaque de l'autobus des joueurs allemands. Un suspect est toujours interrogé par la police en lien avec la mouvance islamiste. Malgré les problèmes, la Russie se dit prête à un dialogue ouvert avec les États-Unis. C'est le ministre russe des Affaires étrangères qui le déclare ce soir. Le secrétaire d'État américain, lui, avoue un faible niveau de confiance entre les deux pays. Rex Tillerson a été reçu cet après-midi au Kremlin par Vladimir Poutine, alors que les relations entre les deux États sont glaciales. Ségolène Royal échoue à prendre la tête du programme des Nations Unies pour le développement. Une information France Info ce soir. La ministre de l'Environnement avait déposé sa candidature pour diriger cette agence de l'ONU basée à New York. Mais c'est l'Allemand Hakim Steiner, ancien directeur général du programme des Nations Unies pour l'Environnement, qui a été choisi. Les attaques contre Jean-Luc Mélenchon se multiplient depuis que les sondages montrent une dynamique pour le candidat de la France insoumise. Et François Hollande met en garde aujourd'hui contre le spectacle du tribun Mélenchon. Il le dit dans un entretien publié demain dans Le Point avec des extraits des Aujourd'hui dans Le Monde. En visite près de Lyon, François Fillon, lui, se déclare favorable à la clause Molière. La mesure prise par plusieurs régions impose l'usage du français sur les chantiers. Le candidat de la droite défend également que le coût du travail doit être le même pour les travailleurs détachés et pour les travailleurs nationaux dans un pays.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore une question autour de la présidentielle, notamment autour de ces faiseurs de rois. Hier, nous avions un débat d'ailleurs assez animé sur les indécis. Hein, on l'a rappelé, il y aurait près de 40% sûrs d'aller voter, mais pour qui, on ne sait pas encore. Donc c'est pour ça que l'élection semble très serrée. Et ce soir, il y a une autre catégorie très peu évoquée par les candidats, ce sont les plus jeunes, les 18-24 ans. Tenté en premier par l'abstention et ensuite par le Front National. Arnaud Vivian, c'est vrai que quelles que soient les élections passent et on retrouve le même constat, abstention, Front National. On a l'impression que ça va être c'est très compliqué pour les autres candidats de parler aux plus jeunes.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment compliqué. On voit tous les candidats s'adressent à la jeunesse. Tous. Je veux dire, c'est même une des catégories les plus favorisées dans les discours. Quand vous écoutez les discours, franchement, la jeunesse est toujours dans tous les programmes apparaît. Donc c'est assez bizarre, en fait.
Parce qu'en fait, c'est une étude, en fait, qui a été sur le premier parti des jeunes votants. Je parle des jeunes votants. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est la manière dont ça s'est renversé. Est-ce que finalement, le vote jeune suit aussi la société française? Puisque, je rappelle juste, en 2012, François Hollande arrive en tête, chez 18-24 ans, suivi de Nicolas Sarkozy, et ensuite seulement Marine Le Pen. Éric Métou, c'est-à-dire que ça suit aussi le vote jeune, finalement, de la société française? Aujourd'hui, vous pensez, on s'est inversé sur le côté...
Je pense qu'il y a 30 ans ou 40 ans, les mêmes jeunes votaient à l'extrême gauche ou étaient autonomes. Voilà, et qu'aujourd'hui, ce qui est assez étonnant et moi qui me désole un peu, c'est que le Front National apparaît comme un parti révolutionnaire. Enfin, il y a une part de rébellion dans cette adhésion des jeunes au vote du Front National. Et quand on regarde bien ce qu'est le Front National... Enfin, moi, j'ai une incompréhension fondamentale de ça, quoi. C'est-à-dire, c'est le parti le plus réactionnaire aujourd'hui en France, peut-être avec celui de Monsieur Fillon, et qu'il apparaisse pour les jeunes comme un parti rebelle, c'est la réussite marketing du Front National. Par ailleurs, c'est une vraie stratégie.
Ça a un effet de la banalisation du Front National. Mais enfin, voilà, le Front National s'est banalisé depuis maintenant.
Mais non, justement, je pense pas que ça soit. Je pense justement
que c'est pas. Non, mais le fait que les jeunes sont en
Front National. Justement, je pense que. Franchement. Je pense que le fait que les jeunes votent pour le Front National, c'est plutôt la preuve de l'inverse. C'est-à-dire que ça ne s'est pas banalisé et c'est ressenti par les jeunes qui votent pour le Front National comme un vote de rébellion.
Juste une chose, avec mes tous les déclarations dont on a beaucoup parlé de Marine Le Pen sur la non-responsabilité de la France dans la rêve du Veldiv, ça a un impact aujourd'hui en 2017.
Pas chez les jeunes, je pense qu'ils s'en foutent. Enfin, je veux dire, c'est une histoire qui s'est passée il y a 70 ans. Enfin, voilà. Pour elle, c'est une erreur en termes de électorale. C'est-à-dire qu'elle va perdre. Peut-être, et encore, c'est pas sûr, ça se voit pas sur les sondages qui ont suivi, mais sûrement pas dans cet électorat-là, ça c'est certain.
Jean-Christophe Gallien, sur le... ce qui est étonnant, c'est qu'on voit en France aujourd'hui le chômage des jeunes est assez fort, il est vraiment pas bon par rapport au reste de l'Union européenne. Est-ce que pour vous, finalement, c'est un vote toujours lié? Voilà, ça veut dire le chômage, aujourd'hui, on vote Front National, on a des difficultés sociales, on vote Front National?
Alors, il y a ça, mais je voudrais revenir, moi, sur l'idée que
effectivement, on parle beaucoup aux jeunes, sauf qu'on leur parle pas aux bons endroits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les trois performances sur le public des jeunes, les trois performances, il y a Marine Le Pen, il y a Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron. Les trois performances, elles se font parce que ce sont les seuls. Et pourtant, Dieu sait que cette campagne digitale en France a été très mauvaise, mais ce sont les seuls qui ont eu à peu près ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, en gros, ils sont allés à la rencontre là où les jeunes se trouvent, là où ils conversent. Combini, tout à l'heure, pour le président de la République, c'est, j'avais envie de lui dire qu'il aurait dû le faire bien plus tôt. C'est-à-dire que finalement, il y a des lieux comme ça, qu'ils soient 2.0 ou pas 2.0, qu'il faut aller, sur lesquels il faut aller. Et aujourd'hui, les trois seuls qui performent sur ceux qui s'expriment, c'est-à-dire en gros pas pratiquement la moitié des jeunes, sont ceux qui sont allés en campagne digitale à la rencontre.
On a vu avec Jean-Luc Mélenchon notamment le succès de
exactement. Donc les formes, les réseaux, l'administration de ces réseaux, les formats utilisés et la manière de transformer ce reach digital en quelque chose qui crée de la confiance après derrière. Les trois qui l'ont fait, c'est eux. Et depuis longtemps, encore une fois, ça se prépare bien avant. C'est pas quelque chose qu'on fait en 15 jours. Fillon là-dessus, nul. Alors qu'on pensait qu'il allait être très fort sur le terrain digital, a été très mauvais, alors qu'il avait une base installée de jeunes qu'ils n'ont pas su animer. C'est-à-dire que pour le coup, 8%, et vous avez raison Eric, c'est aussi de sa faute. C'est pas simplement parce que les uns et les autres l'ont tapé dans les pattes.
Ouais, Céline, pour vous aujourd'hui, le vote jeune pour le Front National, alors en premier c'est l'abstention, voilà, donc aussi qui est un problème, et celui du Front National, pour vous, est-ce qu'on peut le relier aussi aux problèmes sociaux, qu'aux problèmes sociaux d'ailleurs?
Moi, je crois que contrairement à ce qui se dit de manière trop fréquente, les jeunes sont très politisés en France. Et je crois que les jeunes veulent juste ne pas recommettre les mêmes erreurs que leurs parents depuis des décennies. Et j'appelais tout à l'heure avoir le courage d'un débat sur la réalité du pays, sur la réalité dramatique du pays, dramatique sur le plan social, mais également sur le plan territorial, sur le plan de son maillage économique complètement démonté de l'intérieur, sur les perspectives à 5 ou 10 ans qui sont glaciales. Même des rapports internationaux reconnaissent que la France est aujourd'hui dans un point de rupture. Donc je crois que les jeunes aujourd'hui se tournent vers le Front National, parce qu'ils n'ont pas la mémoire de ce qui s'est passé pendant la guerre de 39-45. Ils ont le sentiment que ça n'a jamais été tenté. Il faut leur dire que, bien sûr, malheureusement, ça a déjà été tenté. Et malheureusement, on en connaît à chaque fois les conséquences. Mais il faut surtout leur proposer un projet de résistance. Il faut leur proposer un projet de solidarité, de dépouillement, de simplicité et, en fait, de refondation de la démocratie française. Donc, et du vivre ensemble.
C'est le nom, en effet, du programme de Jean Lassalle. Oui, vous vouliez rajouter.
Il y a deux réponses. Il y a aussi l'idée que l'offre politique qui est proposée leur va pas, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est du marketing pur et simple. C'est-à-dire que t'achètes pas un truc dont t'as pas envie. Donc, en réalité, là où, et ils sont habitués à ça. Aujourd'hui, ils sont dans le binaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'insiste sur cette dimension du point de contact digital qui est, alors ça plaise ou ça plaise pas. On gagne pas l'élection simplement dans les médias verticaux. On la gagne aussi sur ce terrain-là. Je veux pas faire référence à Trump, c'est pas un bon exemple.
Et sur le terrain des valeurs.
Oui, mais aussi à l'endroit où on va converser avec eux. Et aujourd'hui, c'est vraiment très important. Du binaire, oui, 0 et 1. Voilà. Et ça fonctionne aussi avec eux, malheureusement.
Pour voir nos vidéos, c'est ça, c'est finalement un problème de connexion des hommes politiques avec une jeunesse, où finalement ça a toujours été le cas, qu'à un moment la jeunesse a du mal à se représenter à travers des hommes et des femmes politiques.
Oui, d'abord parce que vous savez quoi, je veux dire, on n'est pas raisonnable quand on a 17 ans, disait Rimbaud, on n'est pas raisonnable quand on a 18, 25 ans, je veux dire, il faut arrêter de raisonner, à mon avis, en ces termes sociologiques, la jeunesse, les seniors, etc. Tout ça n'a pas grand intérêt, à mon avis. Le reportage du Monde aujourd'hui sur ce sujet-là était franchement, alors c'était peut-être pas du journalisme de caniveau, enfin c'était pas du journalisme de très grande qualité, ça c'est sûr. Voilà, et je vois pas, je ne sens pas une preuve là dans ce genre d'argument.
En fait, c'est parce que aux dernières élections, les régionales, ça s'est manifesté, ça se manifeste régulièrement dans les
études d'opinion. Ce que je crois et qu'effectivement, c'est que la jeunesse en ce moment est très politisée, un phénomène comme Nuit debout l'a prouvé. Il y a vraiment une volonté de
Il faut arrêter de penser que Nuit debout représente la jeunesse française.
Pas marginal quand s'est passé dans toute la France.
Il y a eu 300 000 personnes.
C'est pas simplement Place de la République. Non, c'était partout en France, y compris dans des petites villes.
C'est de l'aveuglement.
Voilà. Non, c'est pas de l'aveuglement. C'est une réalité parce qu'il y a une volonté de changement. Ça, c'est clair. C'est que dans la jeunesse, et là, il y a un sentiment qu'il faut changer les choses. Et là, je suis d'accord avec madame. Il y a vraiment une idée que quelque chose ne va pas. Et donc, ça déborde d'ailleurs très largement la jeunesse. Et ça explique aussi le taux d'abstention. C'est plus intéressant le taux d'abstention, finalement, que les 30% des jeunes voteraient le Front National.
Allez, dans un instant, on va faire notre petit point international. Justement, on va s'extraire de cette campagne présidentielle. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
La victoire de Monaco 3-2 ce soir en quart de finale aller sur la pelouse du Borussia Dortmund. Les Monégasques prennent une option pour la qualification. Ce match de foot avait été reporté hier après la triple explosion sur l'autocar des footballeurs allemands. Un suspect est toujours interpellé en lien avec la mouvance islamiste. Ségolène Royal ne dirigera pas le programme des Nations Unies pour le développement. France Info le révèle ce soir. La ministre de l'Environnement avait déposé sa candidature pour diriger cette agence de l'ONU. Basé à New York, c'est l'Allemand Hakim Steiner, ancien directeur général du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a été choisi. Vers une résolution ce soir des Nations Unies pour condamner l'attaque chimique en Syrie imputée au régime de Damas, la Russie devrait opposer son veto. Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, rencontrait cet après-midi Vladimir Poutine au Kremlin dans une ambiance glaciale. 11 plaintes pour entrave à la libre circulation déposée à Cayenne. Des plaintes déposées aujourd'hui au commissariat à la suite d'un rassemblement d'une centaine de personnes. Après bientôt 3 semaines de conflit social, ces commerçants, chefs d'entreprise ou professionnels du tourisme s'opposent au blocage de la Guyane. Plus de 1200 migrants ont été hébergés en urgence la nuit dernière après l'incendie du camp de Grande-Synthe. L'incendie de lundi soir a fait au moins une dizaine de blessés. Les réfugiés sont donc dirigés depuis aujourd'hui vers d'autres centres d'accueil et d'hébergement de la région.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors c'est vrai qu'il y a notre présidentielle, notre petite présidentielle à nous. On l'aime bien, on la chérit depuis un an, donc c'est normal que tout le monde s'énerve un petit peu. Mais dans le reste du monde, ça se tend aussi légèrement. On l'a entendu, le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'apprête donc à voter une résolution contre le régime syrien par rapport au bombardement chimique de la semaine dernière. Une réponse de Donald Trump avec des missiles Tomahawk. Et on voit que la situation se tend un petit peu entre les États-Unis et la Russie avec la visite aujourd'hui de Rex Tillerson, secrétaire d'État, pour une visite à Moscou apparemment glaçante. Rien n'est simple dans ce monde et ça tombe bien puisque aujourd'hui Donald Trump en a remis une petite couche sur le média télévisé Fox News.
Putin is backing a person that's truly an evil person.
Poutine soutient quelqu'un qui est vraiment une méchante personne et je pense que c'est vraiment mal pour la Russie, que c'est vraiment mal pour l'humanité, vraiment mal pour ce monde. Mais quand vous lâchez du gaz ou des bombes barils, ces gros barils remplis de dynamite, et il les envoie en plein milieu des gens, et à la fin vous voyez des enfants qui n'ont plus de bras, plus de jambes, plus de visage, c'est un animal.
Voilà, donc les mots sont très durs. Donc de Donald Trump sur Fox News, c'est vrai que Eric Metou, ça fait une semaine où... Alors là, les repères, justement, sont un peu inversés, parce que c'est vrai que...
Quelques mois.
Oui, non, mais vraiment, là, parce que longtemps, on a pensé que Donald Trump, finalement, la Russie avait agi sur l'élection américaine pour aider Donald Trump. Finalement, aujourd'hui, il condamne l'attitude de la Russie en Syrie. Ça devient un peu
compliqué. Il y a une part de politique intérieure dans cette posture aussi. C'est-à-dire pourquoi? De dire que, à partir du moment où je m'oppose à Poutine, c'est pas Poutine qui m'a fait élire. Enfin, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Après, c'est Trump, quoi. Je veux dire, je pense que la semaine prochaine, si les troupes russophones du Donbass vont gazer des Ukrainiens, il l'embrassera sur la bouche et puis il aura fait de nouveau un demi-tour à 180 degrés. Enfin, ce type est totalement imprévisible. Je pense d'ailleurs que pour Poutine, ça doit être un peu compliqué à gérer. C'est-à-dire que même Poutine, qui est quand même un timbré assez remarquable, Trump, c'est le cran au-dessus, quoi. C'est imprévisible.
Je crois que le 6 avril, c'était un enjeu qui est effectivement... Il ne s'agit pas des États-Unis et de la Russie simplement. Là, il y a un triangle qui a été théorisé par Kissinger il y a déjà bien longtemps, qui est le triangle entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Et je crois que ce qui est très important, c'est que jusqu'à avant Obama, et je vais le dire comme ça, les États-Unis ont globalement managé la relation avec la Russie et la Chine à leur profit, dans le sens d'une plus grande proximité que les deux autres étaient proches. Depuis Barack Obama, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la Chine a pris, et notamment ces derniers temps, avant l'arrivée de Trump d'ailleurs, la tête de ce triangle et gouverne finalement largement cette relation. Et ça, c'est un enjeu sur lequel Trump et ce qu'il y a autour, parce que je pense qu'il n'est pas tout seul dans cette affaire, le 6 avril, a voulu jouer en même temps qu'il jouait sur le terrain intérieur. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'il y avait une bataille interne, mais il y avait aussi une bataille à jouer avec Poutine, l'imprévisibilité qu'il a joué aussi face aux Chinois, et président chinois, pardon.
C'est pour ça qu'aujourd'hui.
Dans l'affaire de Pyongyang
et de Corée du Nord. Finalement, aujourd'hui, bien sûr, on parle de Trump, on parle Bachar el-Assad, on parle de Vladimir Poutine, pas d'Europe. du tout, de nouveau. Ça veut dire que, de nouveau, impossible pour l'Europe de faire entendre sa voix ?
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Au fond, ce qu'on voit là, c'est de la com', ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est le sous-jacent, ce qui se passe en dessous entre les États, entre les appareils diplomatiques. Et pour prétendre le comprendre, faut-il encore que la France ait une diplomatie efficiente ? Aujourd'hui, Jean Lassalle, candidat à la présidence de la République, il annonce une mesure phare. Il retire immédiatement toutes les troupes militaires au sol en opération extérieure et il transfère le milliard d'euros qu'on récupère par an sur le redéploiement massif de notre appareil diplomatique, car aujourd'hui, la France n'est pas informée, elle n'est pas éclairée, mais bien pire, elle est dépendante des technologies qui font la guerre de demain. Mmh. En ce sens, Jean Lassalle propose la création de la 4e armée, la lutte contre la cybercriminalité, et il y met une condition très très forte, et c'est là où je voudrais quand même qu'on entende que Jean Lassalle a beaucoup travaillé sur son programme. Il y met une condition essentielle, qui est la non-dépendance aux technologies de l'information américaine. Parce que ô combien même demain on fusionnerait, rationaliserait tous nos services de défense, tant qu'on sera dépendant des technologies de l'information américaine, en réalité, il n'y aura pas d'indépendance.
Allez, les informés de France Info, je suis désolé Arnaud Vivian, vous savez, ici alors, on doit se terminer. Voilà, excusez-moi, alors parce que je vais parler de vous d'ailleurs dans un instant, parce qu'il y a un candidat à la présidentielle, je crois que si on l'aura compris, c'est Jean Lassalle. Merci beaucoup, en tout cas, ce soir, si c'est d'être passé aux informés de France Info. Arnaud Vivian, donc la revue Charles, vous parlez de quoi ?
De politique et religion.
Ça tombe bien. Et vous-même, oui. D'ailleurs, dans quelques mois, dans un mois, je devrais dire que vous êtes candidat et citer tous les autres candidats face à vous parce que vous vous présentez à Paris aux élections législatives.
Dans la 18e circonscription de Paris.
Face normalement à Myriam El Khomri. Donc peut-être tout qu'on vous y retrouvera. Voilà, en tout cas, le choc des titans, c'est là-bas. Merci beaucoup, Jean-Christophe Gaillen. Éric Métou, la une de l'Express cette semaine.
Il y a une autre élection très importante qui intervient dans les jours qui viennent, là, qui est le référendum en Turquie. Et la une est consacrée à Erdogan, le plus grand péril de l'Europe à ce jour.
À trouver en kiosque cette semaine.